Kiosque Magazine.
Bon matin, chers auditeurs. Bienvenue à l'émission Kiosque Magazine en compagnie de Michel Audet et de Jean-Philippe Vachon.
Bon matin, bon matin.
Moi-même, Louise Mercier. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin, qui va être encore, je pense, une journée un petit peu chaleureuse?
Un petit peu chaleureuse?
Jamais eu de canicule?
Non, pas vraiment. Alors, Michel?
De mon côté, je pense que ça va avec la canicule. Je vous parle de lotion solaire.
Ah.
Et de la lotion solaire pour tous. Vous voir, c'est un peu particulier.
Ah, on a bien hâte de voir ça.
Et ensuite de ça, je vais vous amener faire une des observations sur l'univers des aéroports. C'est une série qui est passée et dans laquelle on se promène dans différents aéroports. Et vous allez voir les améliorations qui sont apportées.
Ah bon? Ça me fait penser au film de Tom Hanks où il était pris dans un aéroport. Et Jean-Philippe?
De mon côté, on va se promener aussi en Amérique avec une famille qui est partie pendant un an dans un campeur. Alors, on va regarder leur expérience un petit peu. Assez particulier. Et on va parler aussi des réseaux sociaux avec Twitter qui a de la difficulté à trouver des nouveaux abonnés à chaque mois. Et si j'ai le temps, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui serait... c'est une étude à prendre avec une pincée de sel, mais qui serait une bonne cure pour les personnes qui ont des addictions.
Ah,
on regardera ça
okay.
Si le temps nous le permet.
Moi, je vais être concentrée pas mal voyage. Alors, on va passer dans le nord canadien, chute géante et canyon rapide et randonnée au cirque mal nommé. Et ensuite, ça va être Montréal. Il y a deux articles sur une visite guidée Montréal en scooter électrique. Ouh. Alors, pour ceux qui veulent faire des choses un peu plus différentes. Et l'amphibus, le fameux autobus mm-hmm. qui roule et qui... nage.
Oui, oui, oui.
Je voulais dire qu'il roule et qu'il coule, mais c'est pas le but, non.
Non. Alors, bonne émission.
Alors, on part en famille avec un campeur. C'est dans la presse du 15 août dernier. C'est l'Amérique en famille et en campeur. C'est un article de Leila Malouf. Il y a un an, Valérie Tremblay et son mari Martin Lescaut se sont lancés dans une aventure incroyable. Vraiment, c'est parcourir l'Amérique d'un bout à l'autre d'un continent avec leurs deux jeunes enfants. Mais là, attention, c'est après 57 000 kilomètres à bourlinguer à bord de l'escargot. C'est comme ça qu'ils ont appelé leur campeur. La petite famille qui est de retour à Montréal, les valises chargées de souvenirs après près d'un an de voyage. Il aura fallu donc plutôt deux ans de planification et d'organisation avant que Valérie et Martin, deux enseignants et leurs enfants Ludovic et Léonard de 7 et 5 ans, puissent enfin lever les voiles en juillet 2014. Entre les encouragements, les découragements, l'inquiétude, le scepticisme et les mille et une recommandations de leurs proches, les Lescaut décident d'aller au bout de leur rêve et achètent finalement un campeur il y a déjà trois ans, en 2012. Après une rénovation complète, le cocon familial est rapidement baptisé l'escargot, à la fois en hommage à cet animal qui se promène avec sa maison sur le dos, mais aussi en guise de clin d'œil aux lettres de leur nom de famille, Lescaut. Alors, pendant que Martin conduisait, Valérie s'occupait de l'école à raison de 3 heures par jour, 5 jours par semaine. La famille a d'abord entrepris de traverser le Canada, d'abord et avant tout, de Montréal jusqu'en Alaska, en passant par le Yukon, avant de descendre la côte ouest jusqu'en Californie. Et à la frontière mexicaine, ils se sont joints à une caravane de retraités québécois qui était partie du Texas pour éviter de parcourir seul des routes qui étaient réputées dangereuses. On avait un peu peur à cause de tout ce qu'on avait entendu sur les lieux, mais finalement, on a fini par apprendre qu'il ne fallait pas tout écouter. Finalement, c'était une drôle d'expérience parce que les deux enfants se sont retrouvés avec 40 papis et mamies d'un seul coup. Et en plus, ça faisait du bien de parler français après presque 3 mois passés seulement en anglais. C'est ce que racontait Valérie dans l'article. Donc, la famille a ensuite poursuivi leur chemin jusqu'en Amérique centrale, parcouru l'Équateur, la Bolivie, le Pérou, pour enfin bifurquer vers l'Est et atteindre la terre de feu en Argentine, passant rarement plus de 3 ou 4 jours au même endroit. Une fois leur destination finale atteinte, Santiago au Chili, ils ont finalement laissé le véhicule sur place et pris l'avion pour Montréal. Ils étaient hébergés par des familles locales au lac Titicaca au Pérou, logés dans des ranchs en Équateur, ou garés en pleine nature pour passer la nuit. Alors, les 4 aventuriers qui n'ont pas toujours été seuls dans leur périple durant presque un an. Les parents de Martin, qui ont loué un campeur également, les ont suivis en Californie, alors que les 10 membres de la famille de Valérie les ont rejoints pour leur part au Costa Rica, où ils ont loué également des maisons. En Équateur, les enfants ont même pu revoir leur oncle, qui en a profité pour amener Ludovic en Amazonie. Alors, c'est quand même une année chargée. Au courant de ces 12 mois de voyage, menés contre vents et marées, les passagers de l'escargot ont bien souvent rêvé de retrouver le réseau routier québécois, évidemment. tensions, circulation chaotique dans les capitales de l'Amérique du Sud, les routes sinueuses également par endroits et très escarpées en montagne où le campeur peinait à rouler, chemin de terre et de boue. C'était pas facile, jour après jour, de voyager un peu partout à travers l'Amérique. Et c'est pourtant dans les rues de La Paz qu'ils ont vécu leur plus grande peur. Les rues étroites en macadam, suggérées par le GPS, étaient si escarpées que le campeur glissait vers le bas de la pente alors que les freins étaient complètement enfoncés. Alors ça peut-être faire peur un petit peu de temps en temps. Et même si on a beaucoup apprécié notre expérience, eh bien, la vie de nomade n'est pas pour nous, c'est là-dessus que conclut la mère de la famille. De son côté, le petit Ludovic approuve qu'il était tanné d'être en voyage. Au bout d'un an, il avait hâte de retrouver ses amis de l'école. Et mis à part un mal du pays occasionnel, les deux enfants conservent de très beaux souvenirs de leur aventure, immortalisés évidemment par des vidéos qu'ils ont réalisées pour leurs camarades de classe tout au long de l'année scolaire. Le petit Léo, lui, n'oubliera jamais le Salar d'Uyuni, le désert de sel bolivien où il raconte fièrement avoir appris à faire du vélo à deux roues. C'est des choses qui peuvent marquer, en effet, un esprit d'un petit garçon. Et la liste des choses qui leur manquaient, dressées pendant leur voyage, faisait autour de 6 pages, mais ils ont développé une très belle complicité entre frères et ont appris à établir des contacts avec leurs enfants de leur âge, en dépit des barrières linguistiques. Et en plus, ils sont devenus super bons en géographie. C'est ce que se réjouit évidemment à Valérie, la mère de la famille. C'est des bons voyageurs avant tout, et les deux parents, eh bien, c'était leur passion, et je pense que le pari est réussi. Ils ont transmis cette passion-là aux deux enfants après un an de voyage. C'est un article, je vous le rappelle, de Leïla Malouf dans le journal La Presse du 15 août 2015.
Après avoir été au Canada, aux États-Unis et partout avec la famille Lescott, on va aller aux chutes géantes, canyons et rapides. C'est un article de Marie Tison dans La Presse qui est paru le 8 août dernier. Alors, elle est allée au parc national de Nahanni. Je pense que c'est très, très... c'est pour les spécialistes seulement là, de voyage et d'expédition là, parce que ça me semble assez aventureux. Alors, la carte guide de la rivière Nahanni Sud, achetée au bureau du Parc national Nahanni à Fort Simpson, ne laisse pas le choix. Le portage pour contourner la chute Virginia est obligatoire, est-il écrit en lettres majuscules. Mais qui donc voudrait désobéir? À cet endroit, la rivière Nahanni Sud tombe de 92 mètres dans un fracas assourdissant. La chute Virginia est plus haute que la chute Montmorency et pratiquement deux fois plus haute que celle de la rivière Niagara. Le sentier de portage sera fort apprécié, merci. Le camping se trouve en amont, à moins de 1 km de la chute, alors que le courant commence à s'accélérer. Le fait d'accoster si près de la cataracte suscite une certaine inquiétude. Le camping lui-même provoque un autre type d'émotion. Après plusieurs jours à camper sur des plages de galets et à préparer les repas sur un canot renversé, les pagayeurs installent leurs tentes sur des plateformes de bois et étalent leurs provisions sur de véritables tables de pique-nique. Le soir, une interprète du parc organise une causerie autour d'un feu de camp pour faire connaître la culture des Dénés, les Autochtones qui habitent ces terres depuis des milliers d'années. Elle sert du thé du Labrador et de la bannique, un pain plat autochtone sans levain. Avec de telles installations, il est difficile de croire que le parc Nahanni est à 500 km à l'ouest de Yellowknife, sans accès direct par la route. Après plusieurs jours de canot, c'est le temps de relaxer un peu et de faire de la randonnée pédestre. Il y a les belvédères, bien sûr, qui permettent de voir la chute sous toutes ses coutures. Il y a aussi le sentier qui gravit la montagne Sunblood de l'autre côté de la rivière. Il faut pagayer un peu vers l'amont pour ne pas risquer de se faire entraîner par le courant vers la chute avant d'accoster. La randonnée de 16 km en vaut la peine. Le sentier traverse une forêt d'épinettes, puis une forêt clairsemée de pins pour déboucher sur un pierrier et enfin sur le sommet. Par temps clair, on peut voir d'où l'on vient et où l'on va. Les canyons décroissants. Il y a quelqu'un qui compte à l'envers. Après avoir chargé les canots au bas de la chute Virginia, les pagayeurs s'engagent dans le 4e canyon, une gorge où se succèdent des rapides et de petits bouillons. Plus tard, ils traverseront le 3e canyon, puis le 2e, puis enfin le 1er. Qui donc a ainsi nommé ces canyons? Au début du 20e siècle, des chercheurs d'or ont passé la rivière Nahanni Sud et ses affluents au peigne fin. L'un d'eux, le Suisse Albert Fay, il y avait un nom pour ne pas avoir de succès.
Oui.
Il y a même passé plus de 40 ans de sa vie. Ils n'ont pas trouvé d'or, mais ils ont réussi à survivre en trappant et ils ont laissé leurs traces dans les noms de lieux. C'est ainsi que la vallée Dead Man, homme mort, et le ruisseau Headless, décapité, sont nommés en souvenir des deux prospecteurs, les frères McLeod, trouvés morts près de la Nahanni. Ces chercheurs d'or et ces trappeurs partaient de Fort Simpson au confluent du fleuve Mackenzie et de la rivière Liard, et remontaient cette rivière, puis la Nahanni Sud, pour rejoindre leur territoire de prospection. Ils ont donc nommé les canyons en remontant le courant. Les pagayeurs d'aujourd'hui se la coulent un peu plus douce. C'est plus facile de descendre une rivière que de la remonter, surtout lorsque le courant est fort et qu'il y a de petits rapides pour agrémenter le tout. Ceux-ci sont modérés, de classe 2 ou 3. Il faut quand même connaître ces techniques de canot d'eau vive. Si quelqu'un chavire, il a peu de risques de se blesser, mais il pourrait demeurer dans l'eau glaciale pendant un bon moment avant de se faire secourir par ses camarades. Mais plus que ces rapides, ce sont les somptueux paysages et surtout les canyons qui font la renommée de la rivière Nahanni Sud. Chaque canyon a sa personnalité. Le 4e canyon n'est pas très long, mais il est intense, avec des rapides qui se succèdent entre des murailles de pierre piquées de conifères. Le 3e canyon est le plus long. Sur 40 km, la Nahanni Sud se ferait un chemin à travers la chaîne des montagnes Funeral. Au beau milieu se trouve un des plus beaux sites de camping de tout le parc, à proximité d'un resserrement du canyon appelé The Gate, la barrière, et au pied d'un pinacle, The Pulpit Rock, la chair. C'est le moment de sortir ses bottes de randonnée pour gravir cette colonne et admirer les méandres de la rivière. Le 2e canyon, plus court, semble encore plus majestueux. Sur les parois rocheuses, les couches géologiques forment des courbes et des arabesques intrigantes. Quant au 1er canyon, c'est probablement le plus spectaculaire de tous. Ses immenses murailles semblent bloquer tout l'horizon. En s'approchant, on constate que le roc, qui de loin semblait uni, est en fait parsemé de cavités et de cheminées de fées. Pour couronner le tout, le canyon se termine près des sources chaudes, de quoi relaxer des muscles endoloris après près de 2 semaines de pagayage. Alors, Marie Tison parle aussi la randonnée au cirque mal nommé. C'est un parc bien spécial où, pour randonner, il faut d'abord pagayer. À partir du lac Honeymoon, où a méri le Twin Otter, chargé de canots, de barils et de pagayeurs, il faut plus de 2 jours de navigation pour atteindre le ruisseau Brintnell, le début de la difficile randonnée vers le cirque of the Unclimbables. Difficile de trouver un site plus mal nommé. Ce cirque aux parois infranchissables est devenu, avec l'amélioration des techniques et de l'équipement d'escalade, une véritable mecque pour les grimpeurs. Ceux-ci se rendent directement sur place en avion ou en hélicoptère. Les randonneurs, eux, s'offrent un sérieux défi. Première épreuve, faire un choix judicieux entre les choses à laisser avec les canots bien cachés dans les fourrés sur le bord de la rivière et les choses absolument essentielles à transporter sur son dos sur près d'une dizaine de kilomètres. Deuxième épreuve, parcourir ces kilomètres le long d'un sentier qui s'estompe parfois dans la végétation. Première récompense, déboucher devant le lac glacier alors que le panorama des montagnes Ragged, déchiquetées, commence à se dévoiler. De vieux canots appartenant à des agences de tourisme d'aventure, Black Feather et Nahanni River Adventures, il faut demander leur permission à l'avance, permettent de traverser le lac et de bivouaquer de l'autre côté au pied des monts Ida et Harrison Smith. Troisième épreuve, marcher 7 km et gravir 800 mètres de dénivelé sur un terrain difficile, dont un pierrier bordé de saules bien serrés. Heureusement, Parc Canada travaillait fort pour tracer un sentier plus accessible et moins dangereux que l'ancien. Ultime récompense, déboucher sur Fairy Meadow, une vallée paradisiaque d'herbes bien vertes au milieu de pics acérés et de glaciers. Quel que soit l'endroit où se porte le regard, les mots majestueux et spectaculaires viennent à l'esprit. C'est le fameux Cirque of the Unclimbables, lieu d'ascension difficile pour les grimpeurs et d'agréables virées auprès des glaciers pour les randonneurs. Seul problème, il faudra faire le chemin inverse pour retourner au canot.
bye-bye nuages, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petit cœur à réchauffer, déjà sa plage à colorer, brun foncé ou rouge brûlé. Si en plus de tout ça tu veux bien, sécher ma portion de Colombien, je te donnerai de quoi manger, des larmes d'amoureux attristés. Soleil à demain matin, j'organise un pique-nique party, j'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi.
Lotion solaire. Louise, Jean-Philippe, vous mettez de la lotion solaire régulièrement. J'en suis sûr.
Cet été n'était pas tant régulier.
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est sporadique un peu.
C'est au visage, moi, oui, c'est sûr.
Moi, j'en vais en prendre un petit peu plus que les autres parce que j'ai plus de peau sur le dessus de la tête particulièrement.
Tu m'en vas là, moi aussi, Michel, inquiète-toi pas.
Alors, il faut faire attention. Lotion solaire pour tous. Bien, écoutez, il y a deux villes américaines qui ont lancé un projet pilote cet été pour tenter d'endiguer l'augmentation des cas de cancer de la peau. Je vous donnerai des chiffres à la fin. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Miami a déjà installé 50 distributrices sur ses plages pour inciter les gens venant entretenir le teint de leur peau à se protéger. Boston a suivi le mouvement en disposant 30 distributrices dans les 5 principaux parcs où ses citadins aiment se faire bronzer. La ville de la côte Est, c'est-à-dire Boston, envisage d'étendre la présence des distributrices si les résultats du projet pilote se révèlent positifs. Prévenir le cancer de la peau est un impératif en santé publique. Ça, c'est le maire de Boston qui nous le dit. Je pense que les maires d'un peu partout pourraient nous le dire aussi. Dans les deux cas, les villes assurent la gestion des distributrices, mais les coûts de l'opération sont entièrement financés par le privé. Plusieurs dermatologues consultés ont salué cette pratique. C'est une belle initiative pour la prévention que font ces villes. On le sait que la crème est un des meilleurs moyens de prévenir des dommages. En distribuant gratuitement la lotion, ces villes viennent lever l'un des principaux obstacles à son utilisation, et l'obstacle, ben, c'est son prix. C'est une variable importante, hein, le coût. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir de la crème solaire. Alors, même si les dermatologues applaudissent cette mesure, ils préviennent que la distribution gratuite de lotion solaire a tout de même ses limites. D'abord, l'initiative de Miami est commanditée par une entreprise vendant de la lotion qui en profite, bien sûr, pour faire de la publicité. Ben, c'est un peu normal. Avant d'accepter une telle commandite, il faudrait valider la qualité de la lotion utilisée. Autre écueil, ben, il faut faire attention de ne pas donner un faux sentiment de sécurité aux gens. Les distributrices devraient souligner que la lotion met 30 minutes à devenir efficace et donc il faut attendre avant de s'exposer aux rayons du soleil. Il faut savoir aussi qu'il faut en remettre régulièrement, mm-hmm. ce qu'on oublie assez souvent de faire. on pense que ça pourrait être indiqué pour Montréal, hein? Ben, à certains moments.
Ça comme dépend des mois.
Comme cette semaine. Mettons que le mois passé, c'était un peu limité. Alors, la distribution gratuite de lotion, ben, ça serait indiqué pour Montréal. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le directeur du département de dermato-oncologie de l'Hôpital juif de Montréal. Quand l'été arrive, les Montréalais vont beaucoup à l'extérieur parce qu'ils passent tellement de temps à l'intérieur en hiver. On s'en doute. Je vois beaucoup de patients, et c'est le docteur qui dit ça, je vois beaucoup de patients parce qu'ils passaient beaucoup d'heures au soleil en début d'été. Ainsi, je crois que ce serait une très bonne initiative pour toutes les villes en Amérique du Nord. En Australie, maintenant, ce type de campagne pour la prévention des cancers de la peau a fait ses preuves en Australie. On prise avec une croissance marquée des cas de mélanome, parce qu'il y a un petit peu partout où il y a du soleil. Le mélanome, c'est le cancer de la peau le plus mortel. Alors, le pays, l'Australie, a mis de l'avant, il y a une vingtaine d'années, une campagne qui misait sur un refrain accrocheur. « Slip, slop, slap ».
C'est une slip, sorte slop, de slogan slap. De céréales.
Ouais, ça peut passer à « splish, splash, I was taking a bath » ou quelque chose du genre. Mais aussi sur la distribution gratuite de son solaire. Les efforts de l'Australie ont porté leurs fruits puisque la croissance a été freinée et on aurait même commencé à observer une légère diminution. Alors, qu'en est-il chez nous ici? Ben, écoutez ceci. La distribution gratuite de lotion solaire est toutefois illégale ici, à Montréal et au Canada.
On n'a pas beaucoup de règlements à Montréal.
Et savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que ce produit est considéré comme un médicament. Okay. Et la loi sur les aliments et drogues interdit la distribution gratuite d'échantillons de médicaments, sauf par des médecins ou des pharmaciens. Et ça, c'est Santé Canada qui nous le dit. Alors, la Société canadienne du cancer, qui a déjà distribué des échantillons de lotion solaire par le passé, a d'ailleurs dû mettre fin à cette pratique. Désormais, elle offre plutôt des bracelets qui changent de couleur lorsqu'ils sont exposés au soleil pour inciter les gens à se protéger. Oh, je ne sais pas si c'est un incitatif suffisant, un bracelet qui change de couleur. Alors, quelques chiffres en passant. Qui sont impressionnants. Le nombre de diagnostics de cancer de la peau au Canada en 2014, et ça, c'est d'après la Société canadienne du cancer, c'est 82 000. Alors, c'est quand même impressionnant. Le nombre de Québécois qui meurent en moyenne chaque mois du mélanome, le cancer de la peau le plus meurtrier, il y en a 15. Et on nous dit que le nombre de cas de mélanome a plus que doublé depuis 1990, donc ça fait 25 ans. Et ça, c'est selon les données du ministère de la Santé du Québec. Ça peut paraître étonnant que le cancer en 25 ans ait doublé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lotion solaire avec des indices. Il n'y en avait pas du tout. Je me souviens qu'on se mettait de l'huile de bébé à l'époque, dans le bon vieux temps, d'huile de bébé avec toutes sortes de choses à l'intérieur pour bronzer. Alors, c'est un petit peu comme badigeonner un barbecue, dans le fond. Peut-être qu'à l'époque, il y avait moins de lotion solaire, mais il y avait beaucoup moins aussi de voyages dans des pays ensoleillés, particulièrement dans le sud.
Je pense aussi que le soleil n'avait pas la même qualité.
Il n'avait peut-être pas la même qualité aussi. Et on pense souvent que, par exemple, si on met de la 30 ou de la 60, que ça double. Or, le dermatologue me disait qu'il n'en est rien. Je ne peux pas vous donner exactement, je n'ai pas fait la recherche pour dire c'était quoi la proportion, mais c'est loin d'être, si vous mettez au lieu de la 30, vous mettez de la 60, ce n'est pas du tout le double de protection, en aucune façon. Donc, on se posait la question, est-ce qu'on devrait avoir de la lotion solaire pour tous? Et c'est Pierre-André Normandin qui nous posait cette question dans la presse du 1er août.
Alors, à ceux et celles qui portaient des lunettes ou des verres de contact, vous allez peut-être être étonnés par cette nouvelle étude-là. C'est des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, qui viennent de mettre au point une lentille cornéenne dotée d'un zoom. Alors, fini les longues vues, on peut maintenant zoomer, donc agrandir l'image directement sur notre verre de contact, voilà. En un clignement de paupière, en fait, la lentille passe de la vision normale à une vision amplifiée 2,8 fois. Ces verres de contact ont pour fonction première d'améliorer la vision des personnes atteintes de cette dégénérescence maculaire, un déclin de la vision centrale qui est généralement lié à l'âge. C'est ce qu'explique d'ailleurs le concepteur, l'ingénieur en optique Éric Tremblay, qui est originaire du Canada, donc à Vancouver. Évidemment, les lentilles sont loin d'être commercialisées parce que pour l'instant, elles demeurent très difficiles à placer dans l'œil et sont si inconfortables qu'elles ne peuvent pas être portées plus de 5 minutes à la fois. Alors, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, mais...
Zoomer pendant 5 minutes.
Ça peut être pratique.
Est-ce que c'est la négligence des parents ou la réticence à faire piquer leur progéniture? En quelles que soient les raisons, les vaccins sont en perte de vitesse. Alors, pour motiver les troupes, l'Association canadienne de santé publique, Immunisation Canada, et l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa viennent de lancer une application pour téléphone intelligent et autres appareils mobiles qui va aider les Canadiens à garder la trace de leur vaccin. L'application est gratuite. Elle permet notamment de consulter les calendriers de vaccination, de gérer les rendez-vous de la famille, en plus de fournir de l'information sur les vaccins et de prévenir en cas d'éclosion de maladies à proximité. Alors que plus de 200 cas de rougeole ont été recensés il y a quelques semaines en Colombie-Britannique, l'application tombe à point pour rappeler l'importance de la prévention vaccinale.
Il y a un groupe de chercheurs de l'Université nationale australienne qui a entraîné des oiseaux à apprendre une nouvelle langue. Et je croyais que c'était un canular, mais c'est une expérience qui a réalisé un beau succès quand même. Apprendre des langues étrangères, eh bien, semble-t-il que ça peut prendre des années pour les humains, mais pour les oiseaux, en fait, ça peut prendre jusqu'à 2 jours seulement. Alors, c'est dans une étude publiée sur Current Biology le 3 août dernier qu'on a fait cette étonnante découverte-là. Elle relate plutôt l'expérience de biologistes de l'Université nationale d'Australie qui ont décidé de donner des cours de langue à nos compagnons à plumes. Il y a beaucoup d'espèces animales, semble-t-il, qui usent du langage inné ou communication acoustique. Semble-t-il qu'il y a également les orques, les singes, les chauves-souris qui sont capables d'apprendre des langues très rapidement. Alors peut-être que bientôt les espèces animales vont parler des langues qu'on ne comprend pas. Quoique déjà, c'est...
Je comprends.
On pense souvent au perroquet, mais il y a beaucoup d'autres...
Il y a beaucoup d'espèces...
Entre autres choses, il y a le corbeau qui peut apprendre très rapidement.
Alors, c'est fou, c'est fascinant.
Ayez un corbeau à la maison.
On prend quelques secondes et on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres articles à Kios Magazine.
Écoutez Kios Magazine.
Nous sommes de retour et je vous parle maintenant encore d'oiseaux. On en parlait juste avant la pause, mais je vous parle maintenant de Twitter, donc un réseau social qui utilise le petit oiseau comme logo. C'est quelque 316 millions d'utilisateurs actifs chaque mois et c'est pas rien. Mais pour Twitter, c'est un plafond difficile à franchir. C'est ce qu'a admis l'entreprise récemment. Incapable d'attirer davantage le grand public, elle a été sévèrement punie en bourse et promet de trouver une solution à ce déficit-là. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui marche avec Twitter et qu'est-ce qui ne marche pas surtout? C'est un dossier de Jean-François Coderre qu'on retrouve dans le journal La Presse du 16 août dernier. Alors, en admettant que son entreprise peine à attirer de nouveaux utilisateurs, le 28 juillet dernier, le cofondateur et PDG par intérim de Twitter, Jack Dorsey, plaçait une gigantesque loupe au-dessus d'un problème lancinant depuis des années. Monsieur et Madame Tout-le-Monde peinent à comprendre l'utilité de ce réseau pourtant omniprésent dans les médias de masse. Les gens partout dans le monde connaissent la puissance du réseau social, mais ce n'est pas clair pourquoi ils devraient l'exploiter eux-mêmes. C'est ce qu'a résumé en fait Monsieur Dorsey aux analystes financiers. Pour la consultante en médias sociaux et auteur Michel Blanc, le plafonnement de Twitter s'explique d'abord par la moins grande facilité d'utilisation, en fait, par rapport à Facebook, surtout. L'autre problème qui semble préoccuper davantage les dirigeants du réseau social, c'est le niveau de patience qu'il faut exercer avant de véritablement pouvoir en tirer profit. Il faut suivre beaucoup de monde pour avoir quelque chose d'intéressant, et c'est ce que résume Madame Blanc. Madame Blanc, plutôt, si tu ne suis que des gens qui publient un billet par 4 jours, eh bien, ça ne fait pas grand-chose à voir. Twitter fonctionne avec l'effet de réseau et ça prend du temps pour obtenir cet effet. Alors, comment justement devrait-on procéder pour bâtir ce réseau dans les minutes suivant la création de son propre compte? Eh bien, c'est une grande question et Madame Blanc, en fait, vient justement de repasser par ce processus récemment avec une personne proche qui a ouvert un compte. Donc, pour comprendre le phénomène Twitter, la première étape, c'est de trouver des gens, des groupes, des endroits qui vous intéressent dans la vie et de les suivre sur le réseau social. Bon, par exemple, elle était très intéressée par la course à pied, alors elle a suivi tout le monde dans cette communauté-là et par la suite, le réseau s'amplifie. Les amis, bien sûr, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas, des sources d'informations ou des comptes de découverte quand on cherche de l'information sur un sujet précis, par exemple. Et si vous êtes à court d'idées, eh bien, Twitter vous permet de consulter la liste des comptes suivis par chacun des abonnés, les listes d'abonnement de votre meilleur ami ou d'autres personnes qui semblent partager vos intérêts sont donc un excellent point de départ, probablement le meilleur. Et ce qui est difficile également avec Twitter, c'est qu'il y a une seule règle en fait, la contribution ne doit pas dépasser 140 caractères, mais avec le temps, les amateurs de la plateforme ont développé un langage, un lexique illustré et les coutumes qui peuvent être difficiles à décoder également pour les nouveaux venus. Dans le journal, en fait, on fait un bon résumé de tous les codes comme ça, donc je vous ferai pas la nomenclature parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais quand on n'est pas habitué, évidemment que c'est pas très facile. Il y a plusieurs façons également de mesurer le nombre d'utilisateurs d'un réseau social. La plus reconnue est de tenir compte que des utilisateurs qui sont branchés au moins une fois lors du dernier mois. Et à ce jeu-là, eh bien, quand on comparait les réseaux sociaux, Facebook est très loin, très très loin devant toute la forme de compétition. Avec 1,49 milliard d'utilisateurs, Twitter arrive deuxième avec 316 millions. Il y a un écart assez important, en effet, entre les deux. Il y a également plusieurs outils pour le grand public. Twitter qui a essayé différentes façons de rendre son service plus facile et accessible au grand public. Il y a des sections pendant votre absence, les publications les plus importantes. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver. Mais quand on ne connaît pas Twitter, c'est assez difficile, en effet. Et le réseau social qui a de la misère, justement, à se familiariser avec le grand public. Pour l'instant, c'est les adeptes des médias de masse qui l'utilisent. Et c'est un dossier de Jean-François Coderre qu'on retrouvait dans le journal La Presse du 16 août dernier. Là, je m'adresse à tous ceux et celles qui étaient des fans du jeu Tetris dans les années 90. Si vous connaissez pas ce jeu-là, c'est des petits blocs de couleurs qu'on empile pour réussir à faire des points. Eh bien, ce célèbre jeu, apparu en 1984, aurait, semble-t-il, des vertus anti-craving, selon des chercheurs. C'est l'aspect visuellement distrayant du jeu qui serait à l'origine de cet effet qu'on appelle effet Tetris. Alors, Tetris serait-il bientôt le nouvel outil de lutte contre les addictions? Eh bien, on serait presque tenté de le croire, tant les études se multiplient autour de ce célèbre jeu vidéo qui consiste, comme je vous le rappelle, à former différentes formes avec des briques de couleurs. C'est une équipe de chercheurs de l'Université de Plymouth qui vient de publier sa deuxième étude en un an sur le sujet. Leur conviction étant que ce jeu permettrait d'obtenir de très bons résultats pour réduire les sensations de craving propres aux personnes souffrant d'addiction. Alors, c'est un terme difficilement traduisible en français. Le craving, qui est un terme anglais spécifique au comportement addictif, il fait référence à l'envie irrésistible vécue par les personnes souffrant d'une addiction, qu'il s'agisse de tabac, d'alcool, de nourriture ou de tout autre produit addictif. Et selon ces chercheurs, eh bien, jouer à Tetris réduirait de 56 à 70% quand même cette intensité-là. Et plus précisément, l'étude qu'ils publient dans la revue Addictive Behaviors permet de valider de précédents résultats obtenus en laboratoire. Alors en effet, cette nouveauté, c'est donc d'avoir observé cet effet Tetris sur des volontaires lâchés dans la nature, on a dit ça comme ça, 31 personnes âgées de 18 à 31 ans et suivies à l'origine pour des troubles compulsifs alimentaires ont participé à l'étude et 7 fois par jour et de façon totalement aléatoire, ils étaient invités à s'adonner à des parties de 3 minutes du jeu vidéo. Ils devraient également faire un rapport quotidien sur la survenue en fait de leurs envies au cours de la journée. Et selon les données publiées, semble-t-il que cet effet aurait donc eu un effet significatif plutôt qu'il s'agisse de l'alimentation, du tabac, d'alcool ou de café. Alors jouer à Tetris diminue l'intensité de cette addiction-là. Évidemment, c'est une étude à prendre avec une pincée de sel parce que l'échantillon des 31 personnes étudiées est assez ridiculement faible et sans compter que les troubles étudiés n'étaient pas très variés. C'est un trouble alimentaire seulement, donc c'est difficile de s'imaginer. Et il faut dire également que le jeu comme tel peut devenir une addiction en soi.
C'est ce que j'allais dire.
Alors, c'est pas c'est... nécessairement la meilleure des solutions, mais ça pourrait être intéressant d'évaluer cette option-là. C'est un article de Hugo de Jalinière, dans le Science et Avenir du 17 août 2015.
Dans les aéroports, c'est des observations et des réflexions sur l'univers des aéroports qui sont transmises par Sophie Fouron dans la presse du 25 juillet et d'autres éditions aussi. Vous savez que les aéroports, les hôpitaux ont des choses en commun. Ils ont souvent été pensés de la même façon. Des environnements où un grand nombre de gens transitent, avec des salles d'attente peu confortables, des éclairages au néon, nourriture souvent passable et aussi des attentes interminables. Or, rien de tout cela n'invite à la détente ou au bien-être. Vous avez souvent envie d'être ailleurs ou d'être rendu rapidement dans un autre pays. Ben, bonne nouvelle, les choses évoluent. Du moins dans les aéroports, pas nécessairement dans les hôpitaux. Hein. Et on réalise désormais l'importance d'enjoliver l'expérience du voyageur et de laisser une marque positive dans son esprit. Alors, depuis quelques années, plusieurs aéroports du monde misent sur la lumière naturelle, sur la nature, afin d'apporter un peu de vie, de beauté, de calme dans des carrefours frénétiques où se côtoient souvent des gens stressés, très, très stressés. Alors, quelques exemples maintenant. Edmonton, inspiré autant par les nuages que des peintures du groupe des Sept, le mur végétal intérieur de l'aéroport d'Edmonton impressionne les voyageurs. Il est composé de plus de 8000 plantes de 32 espèces différentes et c'est un tableau vivant, vraiment. En plus d'être ingénieux et apaisant, ce jardin contribue à l'amélioration de la qualité de l'air dans le terminal. Le choix des plantes est basé sur une étude de la NASA, stipulant que certains végétaux seraient plus purifiants que d'autres en transformant de manière efficace des polluants dans l'air. Ces plantes qui améliorent aussi le taux d'humidité performeraient même mieux que des purificateurs d'air. Voilà une façon artistique, écologique, de nous rapprocher de la nature dans des espaces souvent inutilisés. Autre exemple, Vancouver. Pour profiter une dernière fois de la majestueuse côte ouest, allez vous promener dans le parc Chester Johnson, qui est situé juste devant la zone des arrivées internationales de l'aéroport de Vancouver. Alors, vous serez étonné par la beauté, la tranquillité des lieux. Une mention spéciale pour le plus grand mur vert en Amérique du Nord. Plus de 28 000 plantes ont été utilisées pour cette gigantesque tapisserie. Ne trouvez-vous pas qu'un aquarium procure des effets relaxants, un peu comme un feu de foyer? Alors, si vous êtes dans le terminal des vols internationaux, profitez de l'aquarium célébrant les écosystèmes sous-marins de la Colombie-Britannique. Plus de 5000 créatures s'y retrouvent. Maintenant, à Singapour, un autre exemple. Le code de Singapour est unique et certainement dans une classe à part. Souvent proclamé le meilleur aéroport du monde, et c'est ce que je pense, il tourne au sommet des palmarès autant par la qualité de ses services que pour ses innovations. Bien qu'il offre des cinémas, piscines, plusieurs aires de détente et de jeu, ce sont la quantité et la qualité de ses jardins qui ravissent souvent les voyageurs. On retrouve pas moins de 5 jardins naturels qui sont dispersés dans les 3 terminaux de l'aéroport. Un jardin de cactus, de tournesols, d'orchidées, avec des étangs de carpes, un jardin enchanté de son et lumière, et un jardin de papillons. Pas moins de 1000 papillons batifoles dans la serre qui est aménagée en conséquence. Ben, c'est unique en son genre, et ce jardin, on peut dire, redéfinit le concept d'attente interminable dans un aéroport. On est presque heureux d'être dans cet aéroport. Même si l'aéroport de Singapour multiplie les prix et les honneurs, ses dirigeants ne se reposent pas sur leur laurier. Un nouveau terminal est prévu pour 2018. Et cet aéroport, ce terminal plutôt, a été imaginé par l'architecte Moshe Safdi. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'architecte qui a conçu le Habitat 67 à Montréal. Ce terminal s'appelle le Jewel. C'est joli, hein? Le joyau. Et c'est un méga-complexe futuriste de 10 niveaux qui repoussera encore davantage les limites de l'expérience aéroportuaire. C'est un cocon de verre et d'acier qui va mettre en valeur la nature, la lumière naturelle. Une chute de d'eau de 40 mètres sera le point central de cette nouvelle attraction où se retrouveront les voyageurs dans des restaurants, boutiques et surtout aires de détente. Il est rare de pouvoir mettre le nez dehors une fois que vous avez passé les douanes à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est pourtant possible au terminal 2E. Et c'est des vols d'Air France qui sont des destinations de Montréal, d'ailleurs. Et vous trouverez un micro-jardin avec des murs verts et des banquettes. Mais peut-être le petit côté moins intéressant, c'est l'endroit réservé pour les fumeurs. Alors, si vous prenez un avion à Amsterdam, en terminant, il y a encore beaucoup d'exemples d'aéroports, à n'importe quel moment d'année, vous pourriez rapporter un magnifique bouquet de tulipes fraîches. Vous pouvez entrer au Canada avec des fleurs coupées sans problème, aucune restriction. Plusieurs kiosques de l'aéroport Schiphol, qui est l'aéroport d'Amsterdam, offrent des bouquets spécialement emballés pour survivre au transport. Alors, quelle belle façon de revenir chez vous avec des gens qui vous attendent, en apportant un beau bouquet de tulipes. Alors, c'était une petite réflexion et observation sur différents aéroports dans le monde par Sophie Fouron dans la presse du 25 juillet.
Dans le journal, rien d'autre à faire, essayer de trouver ça normal. J'ai pas de costume sombre, j'ai pas de conversation, et puis j'ai peur de l'avion. Bienvenue dans le piège. Une voix de velours qui dit sous votre siège, la veste de secours. Faut qu'il y en ait un qui tombe, c'est peut-être le bon. J'ai peur de l'avion. Tous les bruits sont bizarres. Je jure
que je rentre à pied à la maison. Y'a rien à faire, rien à faire. J'ai peur de l'avion. Peur de l'avion. Peur de l'avion. Peur de l'avion.
Alors, merci à la musique de Francis Cabrel, « J'ai peur de l'avion oui. », ce qui est le cas de bien des gens. Alors, moi, je regardais des articles parce que je suis toujours à la recherche d'activités plus, je dirais pas loufoques, mais différentes à faire comme touriste. Là. Donc, alors, c'est Montréal en scooter électrique. C'est un article écrit par Stéphanie Morin dans la presse du 15 août dernier. Alors, c'est quoi? Une virée des grands classiques touristiques de Montréal au volant d'un scooter électrique. Depuis 3 ans, l'entreprise Diad propose des visites guidées motorisées aux visiteurs et aux Montréalais qui souhaitent découvrir la ville autrement. Or, ces visites peuvent prendre des couleurs fort différentes selon le guide responsable du groupe, explique la copropriétaire de Diad, Joël Ebac. Dans certains cas, les tours sont offerts par des guides certifiés qui vont donner beaucoup d'informations sur l'architecture ou l'histoire de la ville. D'autres, comme Carrie, qui est aussi blogueuse, offrent des tours sur le lifestyle montréalais. Et nous avons un autre guide, David, dont l'approche est davantage axée sur le plaisir et la détente que sur l'information. Dans son cas, nous préférons parler d'une activité guidée que d'un tour. C'est ce dernier qui nous a accompagnés lors de notre visite. D'entrée de jeu, David Stewart a mis carte sur table. Je n'offre pas un tour informatif. Si c'est ce que vous voulez, ça me fera plaisir de vous proposer un autre guide. Moi, je veux vous faire ressentir l'ambiance de la ville. Dans le groupe, personne ne rechigne. Surtout pas Abby Watkins, 19 ans, originaire de l'État de New York. Elle a fait la veille un tour de bus touristique avec ses parents. J'ai détesté ça. J'ai horreur de me sentir comme une touriste. Aucun risque ici. Même si plusieurs sites touristiques figurent à l'itinéraire, cette virée ne ressemble en rien à la visite lambda. D'abord parce que chacun doit maîtriser les 2 roues qu'on lui a assignées.
On espère.
Ça serait plus sécuritaire. Rien de trop sorcier, toutefois. Les plus de 18 ans n'ont d'ailleurs besoin d'aucun permis pour conduire un scooter électrique. Le véhicule ne dépasse jamais les 32 km/h. Seulement, il faut composer avec la circulation, et je dirais les nids de poules, parfois chaotiques de Montréal, ce qui peut faire grimper le stress. C'est pourquoi pendant 3 heures et des poussières, notre groupe, 8 personnes, 6 scooters, a emprunté les petites rues résidentielles, voire les ruelles. Et parfois les pistes cyclables, même si les scooters électriques y sont interdits depuis décembre dernier. Nous sommes au courant de la nouvelle législation adoptée par la Ville de Montréal et nous sommes en train d'adapter nos activités guidées en conséquence, explique Joël Ebac, qui travaille actuellement à une nouvelle mouture du site Internet de l'entreprise où de nouvelles visites guidées seront proposées. D'ici là, 3 visites sont offertes, le matin, l'après-midi et le soir. L'itinéraire de chacun, il est très approximatif. Le trajet est adapté selon les aptitudes de conduite des membres du groupe, explique David Stewart. Si les gens ne sont pas très à l'aise, je ne vais pas les mener dans le trafic du centre-ville. Ainsi, le jour de notre passage, le guide nous a menés aux 2 belvédères du Mont-Royal, à la fabrique de bagel Saint-Viateur, au marché Jean-Talon, au quartier des spectacles, ainsi qu'à la place d'Armes dans le Vieux-Montréal. Ces arrêts sont autant d'occasions pour David Stewart de multiplier les blagues et les anecdotes personnelles. L'homme est doté d'une énergie contagieuse. Certes, il ne présente pas toujours la ville sous son meilleur jour. Les déboires du stade olympique, les problèmes d'itinérance au centre-ville ou les drogues illicites qui circulent pendant les tam-tams du Mont-Royal. Mais son humour, tout sauf politiquement correct, fait mouche. Le guide se fait d'ailleurs un point d'honneur de s'informer fréquemment du niveau de satisfaction de chacun. Ce n'est pas les dates que les visiteurs retiennent après un tour, mais le plaisir qu'ils ont eu à le faire. Et d'après les commentaires entendus, le plaisir n'a pas manqué. On a appris rien sur Montréal, c'est quand même un peu drôle, mais tout sur le maniement d'un scooter électrique, notamment qu'il ne faut jamais, jamais retirer sa main de la manette de frein avant d'avoir retiré la clé du contact. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, mais ça n'a
pas
l'air...
On ne l'essayera
pas, par exemple. Ça n'a pas l'air agréable. On a aimé l'esprit de groupe qui se crée rapidement entre les participants, le plaisir que procure la conduite du scooter. Ce dernier permet de couvrir une grande distance plus rapidement que le vélo et il offre un point de vue sur la ville complètement différent de celui de la voiture ou de l'autobus touristique. On a moins aimé. Le groupe est laissé à lui-même lors de certains arrêts, notamment au marché Jean Talon. On se revoit dans 15 minutes, ça ne suffit pas. Pourquoi ne pas suggérer des marchands intéressants pour les touristes, notamment ceux qui offrent des dégustations? Il faut tout de même fournir un minimum d'informations aux visiteurs pour qu'ils profitent des lieux. On conseillera la visite à ceux qui visitent Montréal pour la première fois et qui veulent découvrir ces différents quartiers de façon amusante. Pour ceux qui connaissent déjà la ville ou qui veulent plus de chair autour de l'os, on suggère fortement de préciser le type de visite qu'on souhaite faire lors de la réservation. Mieux vaut appeler dans ce cas. À savoir, les gens qui ne sont pas à l'aise sur un vélo ne le seront pas davantage sur un scooter électrique. Alors, deuxième activité un petit peu plus loufoque. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu le...
Oui, facilement reconnaissable.
Oui, à ses couleurs jaunes et bleues, sa forme et tout ça.
Une espèce de bateau.
Oui, amphibien, hein, ouais, finalement. Ouais, ouais. Là. Alors, l'Amphibus, qui est un article de Fabienne Couturier dans la presse, également du 15 août. Alors, c'est quoi? C'est un véhicule amphibie qui offre une visite commentée du Vieux-Montréal, d'abord dans les rues, puis sur l'eau du Saint-Laurent. La visite d'une durée d'une heure emprunte le boulevard Saint-Laurent à partir de la rue de la Commune, puis la rue Saint-Jacques vers l'ouest, la rue McGill vers le sud jusqu'au fameux CIO numéro 5, qu'on longe de très près par un chemin qu'on dirait presque secret pour atteindre la rampe de mise à l'eau. Et plouf, l'amphibus descend sur le Saint-Laurent, vogue poussivement jusqu'au bout du parc de la Cité du Havre et fait demi-tour pour rentrer au Bercail par la rue de la Commune. On a appris quelques anecdotes amusantes ou insolites, comme le fait que l'architecte de la basilique Notre-Dame s'est converti au catholicisme pour pouvoir se faire enterrer dans la crypte de ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre, ou l'utilité de cette énorme masse cubique derrière l'immeuble de la Banque nationale qu'on n'avait jamais remarqué et qui n'est autre que son coffre-fort, ou encore que le silo numéro 5 était le plus petit des 17 que comptait autrefois Montréal. On a aimé le fait de pouvoir contempler des coins de Montréal sous un angle nouveau, comme le parc de la Cité du Havre notamment, véritable bijou au milieu du fleuve. On peut y voir les pêcheurs tendre nonchalamment leurs lignes, des amoureux marcher au bord de l'eau, on dirait une toile de Seurat. On a aussi aimé le fait que l'amphibus soit pourvu d'immenses fenêtres non vitrées qui laissent entrer l'air et parfois des embruns, ainsi que le fait d'être assis presque au ras de l'eau. On sent vraiment qu'on est sur le fleuve. Cela donne une perspective étonnante. Paradoxalement, les immeubles du centre-ville paraissent ridiculement petits, comme tassés sur eux-mêmes. On a moins aimé le côté quelque peu cabotin du commentaire que le guide émaille de considérations personnelles au détriment d'informations plus pertinentes. Les étrangers aimeraient peut-être, par exemple, en savoir plus sur l'histoire du canal de la Chine, pas un mot sur les écluses qu'on longe pourtant, ou connaître la raison pour laquelle la chapelle Notre-Dame de Bon Secours porte ce nom. Il est vrai que, comme le commentaire se fait dans les deux langues officielles, ça laisse deux fois moins de temps pour dire des choses instructives et faire les indispensables blagues qui permettent de garder l'attention des passagers. Des visites en français et en anglais en alternance permettraient de résoudre l'équation. On conseillera la visite à « C'est une balade amusante à faire notamment avec des enfants parce qu'elle ne dure pas trop longtemps et que la partie aquatique est plutôt rigolote. »
Je reviens un peu sur les aéroports. Je vais parler de l'aéroport de Taipei, à Taïwan. Et c'est comme tous les grands aéroports asiatiques, modernes, efficaces et impeccables. Mais ils ont des particularités tout à fait spéciales. Par exemple, on se préoccupe des personnes vieillissantes dès l'arrivée en leur offrant des lunettes de lecture pour remplir les cartes d'immigration. Particulier, hein? Puis, l'aéroport comprend aussi une très jolie bibliothèque, une vraie, avec près de 2000 livres en anglais et en mandarin. Et aussi une bibliothèque virtuelle, qui comprend, c'est la première dans un aéroport, qui comprend des centaines de livres numériques. Et l'expérience bienveillante de Taipei se termine en beauté une fois que vous êtes assis dans l'avion. Et si vous regardez par le hublot, vous verrez des agents de piste qui envoient la main pour vous souhaiter bon voyage. C'est intéressant, hein? Alors, c'était l'aéroport de Taipei.
Rapidement, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les médias sociaux, une image d'une femme sur Mars. Il y a beaucoup d'images comme ça qui nous font penser qu'on voit des choses. C'est des images, évidemment, de la sonde, du robot plutôt d'exploration Curiosity. Il y a plusieurs images comme ça qui ont fuité sur Internet, mais semble-t-il que c'est des illusions. On appelle ça une pareodolie, donc ça reflète le processus normal de fonctionnement du cerveau et ça interprète en permanence des choses qui n'ont pas de sens pour leur donner du sens. Alors, sur des images, on peut croire des fois voir des bonhommes sourire sur la planète Mars, un cercueil, des choses comme ça, mais c'est simplement des ombres ou bien du vent, des rochers. Donc, c'est un mystère, mais ça peut donner des images assez cocasses, des fois.
Alors, ceci nous amène à la fin de l'émission. Alors, merci à Louise. Louise, merci à Jean-Philippe Vachon. Merci particulier à Mathieu. Mathieu Tessier, hein, qui fait la mise en onde. On est en reprise à 13h et à 21h, si vous voulez nous réécouter ou le dire aux autres qui vous entourent. Et vous pouvez nous envoyer des messages, hein, sur canalm.org ou vusezvoix.com. On lit tous vos messages. On vous souhaite une très bonne semaine.
Merci tout le monde.
Bonne journée.